Fragmentaire sur Radio Gameuse avec nous.
Aujourd'hui, nous poussons les portes du musée Charles de Bruyère à Remiremont, qui accueille jusqu'au 4 janvier 2026 l'exposition temporaire « Le grand tour de Louis Français, voyage en Italie et mythologie ». Né à Plombières-les-Bains en 1814, Louis Français s'est imposé comme l'une des figures majeures du paysage du XIXe siècle, mêlant précision académique et poésie romantique. À travers cette exposition, le musée nous invite à suivre ses pas en Italie et à découvrir comment l'Antiquité et la mythologie nourrissaient son regard. Pour en parler avec nous, Aurélien Vacheret, conservateur du musée Charles de Bruyère. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Qui est donc ce peintre Louis Français ?
C'est un peintre paysagiste, c'est-à-dire qu'il aime à représenter surtout des paysages. Mais d'autres inspirations nourriront son œuvre. Mais c'est le grand rénovateur de la peinture de paysages en France et qui va lui donner toutes ses lettres de noblesse et lui faire accéder à un statut très important. Déjà vers 1860, il deviendra très fameux. Et en 1890, il devient membre de l'Institut de France en tant que peintre paysagiste. Et c'est vraiment une première. Parce qu'avant, la peinture de paysage était une espèce de sous-genre dans la hiérarchie de la peinture.
C'est une figure majeure du paysage du 19e siècle. En effet, si je ne m'abuse, il a fait partie de l'école de Barbizon.
On parle d'école, mais en réalité, c'est un groupe de peintres qui se rencontrent librement et qui peignent donc à Barbizon, en marge de la forêt de Fontainebleau, qui était un lieu très... naturel, avec des auberges, et où c'était pas cher de se loger et puis de trouver des sujets pour peindre le paysage sur le motif, c'est-à-dire peindre vraiment dans la nature. Et Louis Français fait partie des premiers. Hein. Et d'ailleurs, il va contribuer à découvrir aussi dans les environs les Vaux de Cernay, qui est un site qui peint, c'est un de ceux qui peint pour la première fois, et dont le musée Louis Français a une peinture de 1870, qui est régulièrement demandée en exposition et qui va revenir, parce qu'il est parti, à Rambouillet. C'est une structure muséale, le palais du roi de Rome. Donc il a été prêté pendant un moment.
En effet, il y a des tableaux qui sont des emprunts, des prêts. Le musée Louis Français à Plombières-les-Bains, donc c'est une collaboration avec le musée de Plombières et bien d'autres encore.
Oui, le musée de Plombières-les-Bains et la ville de Plombières, qui nous a notamment bien aidés pour le transport de leurs œuvres. Et il y a plusieurs œuvres des arts graphiques, donc dessins et gravures, qui proviennent du musée d'art ancien et contemporain, le MUDAC, à Épinal. Et une œuvre en dépôt au musée Louis Français depuis longtemps, mais qui appartient à la société Schongauer, le musée de Colmar, le musée Unterlinden, avec un très grand format. Mais le principal contributeur est en effet le musée Louis Français. Près de 90% des œuvres prêtées en proviennent.
Musée qui est d'ailleurs fermé depuis un certain temps, donc ça permet aussi aux Vosgiens de redécouvrir de nouveau l'œuvre de Louis Français.
Oui, c'est une des rares occasions de découvrir les collections de son musée, fermé depuis plusieurs décennies maintenant, et voilà, qui est un musée de France, mais dont les œuvres sont bien conservées dans des réserves récemment aménagées. Elles sont restaurées petit à petit. Et voilà, à part les tableaux demandés en exposition par d'autres musées français, voire étrangers, c'est sûr que les œuvres sont quasiment devenues invisibles. Alors, certaines œuvres sont exposées quelques jours, de temps en temps, par l'équipe du musée Louis Français, mais voilà, c'est très ponctuel et ça ne concerne que très peu d'œuvres, en fait.
Raison de plus pour se rendre au musée Charles de Bruyère pour redécouvrir cet artiste et voir une belle collection. Collection qui est sous le titre, du moins exposition qui est sous le titre « Le grand tour de Louis Français, voyage en Italie et mythologie ». Aurélien, est-ce que vous pouvez nous expliquer le titre de cette exposition ?
Oui, « Le grand tour » fait référence à une pratique qui existait surtout au XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, qui était pour l'aristocratie et aussi pour les artistes, d'aller découvrir et de se former le regard, de faire leurs humanités en quelque sorte, et voilà, d'aller en Italie, voyager et découvrir l'art antique, l'art des grands maîtres, et la lumière et la beauté des villes romaines, notamment Rome, mais pas seulement, et souvent, voilà, c'est un tour d'Italie. Et Louis Français, il part en 1846, et il fera plusieurs séjours, aussi dans les années du 150. Donc c'est quelque chose qui va beaucoup l'inspirer. Et concernant la mythologie, effectivement, il va assez peu peindre d'œuvres à sujet à proprement parler mythologique, mais il y en a plusieurs dans l'exposition, dont une œuvre phare que la ville a acquise récemment pour le musée.
L'exposition a d'ailleurs un sens de déambulation. Ça commence par la partie antique et la partie mythologie. Est-ce qu'il s'agit de faire une exploration chronologique des œuvres de Louis Français, non pas forcément dans les années de réalisation, mais plutôt dans les sujets abordés ?
Oui, il y a un peu de chronologie, un petit peu, parce que finalement, la première œuvre, c'est la plus ancienne qu'on présente. Dans les dernières œuvres, c'est parmi les plus tardives, mais c'est surtout un accrochage thématique, pas purement chronologique, mais on va de 1841 à 1891, je crois. Ça couvre vraiment toute la carrière de Louis Français, mais c'est vrai qu'au départ, c'est vraiment sur des thématiques bien particulières qui ont été sélectionnées justement pour mettre en valeur une acquisition du musée.
Donc ça commence par les croquis, les tableaux à thème antique, puis l'Italie, les paysages essentiellement. Le paysage d'ailleurs, à l'époque, ce n'était pas forcément un grand genre dans la peinture, si je ne m'abuse.
Oui, c'est ça. Disons qu'autrefois, depuis la Renaissance, voire avant, enfin, on représentait surtout des paysages, parce que c'était avant tout des scènes de l'histoire, de la Bible. Et à l'arrière-plan, l'artiste pouvait se faire plaisir en représentant des paysages plus ou moins réalistes, disons. Mais il ne pouvait pas représenter un paysage tout seul, ça n'avait aucun sens à l'époque. Et donc les scènes mythologiques, les scènes tirées de la Bible étaient considérées comme le genre suprême, le plus important, le plus noble en fait, dans la hiérarchie de la peinture. Mise en place au XVIIe siècle par l'Académie.
Donc c'est le grand voyage de Louis Français à travers le temps et l'espace, toujours dans l'Italie antique et les paysages d'Italie. D'ailleurs, il a peint sur plusieurs décennies. On croit voir une évolution dans ses styles, une évocation au début assez antique qui peut, pour les connaisseurs, faire écho à la peinture classique. Beaucoup de ruines, de paysages un petit peu plus sombres ou de forêts qui évoquent un petit peu la période romantique ou du moins les leitmotifs romantiques. Et enfin, il y a un autre tableau que j'évoquerai juste après qui évoque un petit peu l'impressionnisme. Donc Louis Français, bien qu'ayant été très académique, a-t-il expérimenté effectivement tous ces différents mouvements à sa manière, évidemment ?
Disons que Louis Français est un peintre relativement académique, mais dont sa touche, sa manière, sa façon de peindre évolue dans le temps, malgré tout. C'est vrai que, par exemple, la peinture Jardin antique, qui représente une jeune femme telle une odalisque dans un jardin luxuriant, mais très vert et assez sombre quelque part, peut faire penser à Gustave Courbet, bien que il soit d'une génération avant lui. Et parmi ses dernières œuvres, les œuvres des années 1890 ou même 1880, on note que la touche est plus libre et il y a des petites touches de couleur, peut-être même du mauve, qui vient un petit peu à la manière pointilliste, mais en même temps, c'est juste des notes qui rajoutent vraiment tout à la fin, des petites touche de peinture. Parce que le reste de la composition reste relativement classique, bon, un peu avec des jeux de lumière assez accentués, avec des ombres portées. Mais il rajoute des petites touches comme ça, du bout du pinceau. Et c'est vrai que ça pourrait faire penser à une technique plus moderne. Et c'est sûr que son style évolue très réaliste au début et il s'en détache un peu vers la fin. Et c'est vrai que la dernière œuvre de l'exposition, c'est un coucher de... Enfin, un clair de lune, enfin... Une sorte de coucher de soleil. C'est entre les deux, mais ça évoque assez Impression soleil devant de 1874 de Claude Monet, qui est vraiment considéré comme l'exemple type de la peinture impressionniste, en fait. On voit la mer, un petit bateau, et cette lumière, cette pénombre, cette clarté, avec ses reflets sur la mer. C'est sûr que c'est un parallèle assez étonnant. Mais cette peinture n'est pas datée, mais sur le plan visuel, on peut faire le rapprochement.
Donc quand on entre, on voit un petit peu la fin de l'exposition avec ce tableau. Et si on prend le sens de déambulation, on se trouve d'abord face à un très grand tableau qui n'est pas tout à fait de Louis Français, qui évoque une scène en forêt avec une femme endormie. Que pouvez-vous nous dire, Aurélien, sur ce tableau ?
Alors, ce tableau, Jardin antique, sans doute que Louis Français n'était pas très à l'aise avec les figures. En tout cas, il demande à son ami peintre Henri Baron de réaliser la figure de femme alanguie sur une peau de tigre, en fait, au premier plan du tableau, et à l'arrière-plan, c'est une forêt, un jardin luxuriant, antique, parce qu'en fait, il y a une statue de satyre tout à l'arrière-plan. Mais il faut vraiment observer avec attention pour l'apercevoir, parce qu'elle est complètement envahie de végétation.
On en vient à la pièce maîtresse, un tableau qui s'appelle Orphée. Ce tableau, il a une histoire, il a quelque chose à raconter et ce n'est pas n'importe quel tableau, si je ne m'abuse.
Oui, c'est une œuvre phare pour les musées de Remiremont à plusieurs titres. D'une part parce qu'il a représenté assez peu de tableaux à sujet mythologique. Deuxièmement, il nous intéressait parce qu'il est d'une période chronologique plus ancienne que la plupart des œuvres que nous conservions, les années 1870-1880, parce que c'est une peinture de 1863. Enfin, c'est une œuvre dont on a eu en don, très peu de temps avant l'acquisition, le dessin préparatoire, et précisément préparatoire à ce tableau, cette version précisément. Cette œuvre a été acquise en vente aux enchères à Paris en février 2025, donc c'est assez récent. Et en fait, elle est dévoilée pour la première fois à l'occasion de cette exposition, et j'irais même plus, cette exposition est faite pour mettre en valeur cette acquisition. C'était le souhait particulier. Et en fait, c'est une œuvre très importante puisqu'elle correspond à un tableau qu'il expose au Salon des artistes français, donc en 1863, qui est conservé au musée d'Orsay. Cette toile serait en fait le tableau préparatoire au grand tableau du musée d'Orsay, qui est un des chefs-d'œuvre de la peinture réaliste du 19e siècle au musée d'Orsay. Et voilà, elle représente Orphée juste après qu'il ait quitté les enfers, où il était allé chercher avec sa lyre son l'être aimé, Eurydice, qui était décédé quelque temps plus tôt. Et il a eu la faveur insigne de pouvoir aller la rechercher, mais à une seule condition, c'est qu'il ne se retourne pas, qu'il ne la regarde pas tant qu'il n'est pas sorti du souterrain des enfers. Ces enfers qui n'ont pas la connotation chrétienne qu'on donne aujourd'hui, hein, c'était les enfers antiques. Et bon, bah, malheureusement pour lui, juste au moment avant de sortir, pris d'un doute affreux, pensant ne plus être suivi, il se retourne et bah, tout s'écroule parce que finalement, il a échoué. Et donc c'est pour ça que le tableau, il est représenté contre un arbre, plein milieu de la composition, la lyre jetée au sol et avec un geste d'affliction, de tristesse, de douleur, en fait, les mains jointes. Et voilà, à l'arrière-plan, il y a un cortège antique de personnes avec un voile blanc qu'on retrouve vraiment pour évoquer des prêtresses de l'Antiquité, des choses comme ça. Et le tombeau en pierre monumentale qui est à l'arrière-plan. Alors en fait, ce tableau préparatoire correspond exactement au dessin parce que là où il y a un clair de lune avec des étoiles qui parsèment le ciel, il y a des arbres qui ne sont pas, qu'on ne retrouve pas sur le musée d'Orsay, sur l'œuvre du musée d'Orsay, qui a été un peu allégé au centre du tableau, à raison sans doute, et ce qui montre bien que c'est une étude préparatoire en vue d'une évolution future du tableau. Et c'est donc une œuvre majeure, parce que c'est une œuvre qui, d'après le musée d'Orsay, l'a fait connaître au niveau français, mais aussi international. C'est un tableau en fait très 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 fameux, dont on a eu la chance unique d'acquérir une autre version. Donc c'est vraiment une œuvre de référence.
Oui, parce que sur ce même panneau ou sur ces deux panneaux, il y a un croquis préparatoire, le tableau préparatoire et le tableau exposé au musée d'Orsay. En effet, on connaît assez bien les croquis préparatoires, mais on connaît beaucoup moins les tableaux préparatoires. Il y en a, il me semble, quelques-uns dans l'exposition qui se déroule en ce moment même au musée Charles de Bruyère.
Oui, l'idée aussi de cet accrochage-là était de montrer comment Louis Français travaillait. Alors, on a plusieurs exemples et on a plusieurs tableaux à sujet mythologique préparatoires. Ce ne sont pas les tableaux définitifs. On ne sait pas forcément si les tableaux ont été réalisés en grand format ou ils sont conservés aujourd'hui, mais ça permet de montrer comment ils travaillent. Et souvent, ils sont pas aboutis. Ils brossent la scène, les personnages, mais les visages, les personnages sont pas particulièrement détaillés. Parfois même le paysage non plus. Et voilà, ça permet d'éclairer cette acquisition-là pour voir comment ils travaillaient. Comment il élaborait son travail.
Et qui dit tableau préparatoire avec juste à côté une impression du tableau fini, ça peut inviter les curieux à venir regarder les quelques différences et l'évolution entre le tableau préparatoire et le tableau fini.
Oui, c'est le grand intérêt en fait de cette présentation-là, c'est de surtout qu'un dessin en fait ne peut être montré que pendant 3 mois. Et après, il doit être retiré au minimum 4 ans dans le noir absolu. Et donc, en fait, les dessins sont rarement montrés dans les musées, soit par roulement, mais toujours, on doit pouvoir à un moment les abriter pour les préserver. Parce que ce sont des œuvres fragiles et qui peuvent s'abîmer du fait de la lumière. Bon, il y a d'autres causes possibles, hein, l'humidité, etc. Mais la lumière peut vraiment les dégrader. Et en principe, la plupart des dessins s'exposent à 50 lux de manière à les préserver. Et même à luminosité restreinte, il faut absolument appliquer la règle de préservation dans le noir pendant plusieurs années. Donc c'est toujours intéressant de voir les dessins parce que ce sont des œuvres qu'on ne peut pas voir de manière continue dans aucun musée. Et là, c'est tout à fait amusant de pouvoir s'amuser à faire le jeu des différences, et puis notamment le placement des étoiles, par exemple. Je pense qu'il est un peu différent sur les tableaux. C'est très pédagogique et très amusant. Et puis voilà, même les enfants peuvent s'amuser à voir la différence.
Et je pense qu'on prendra beaucoup de plaisir à regarder ces différences. Encore une fois, cette exposition n'aurait peut-être pas vu le jour sans la collaboration avec le musée Louis Français de Plombières-les-Bains, le prêt du MUDAC d'Épinal ou même du musée Unterlinden à Colmar. On peut en profiter pour remercier ses partenaires et évidemment vous pour cette très belle incursion en Italie à travers les pinceaux d'un grand peintre de paysages français.
Oui, tout à fait. Il faut vraiment remercier ses partenaires et qui nous ont permis de valoriser ce très bel achat aussi. Et c'était un argument et puis c'était vraiment une occasion rêvée. Voilà, c'est une sorte d'alignement de planètes qui a permis cette exposition-là.
Merci Aurélien Vacheret, conservateur du musée Charles de Bruyère, pour cet éclairage passionnant sur l'œuvre Louis Français et sur l'exposition temporaire Le Grand Tour de Louis Français, voyage en Italie et mythologie. Pour ceux qui souhaitent découvrir ses paysages et son univers artistique unique, l'exposition se tient jusqu'au 4 janvier 2026. Auditeur, auditrice, tu sais ce qu'il te reste à faire pour plonger au cœur du voyage de cet artiste vosgien incontournable.
Fragment d'art sur Radio Gémeaux avec nous.